Vous savez, dans la vie, quand on s'amuse, parfois on a l'impression que c'est trop court. Si on s'est vraiment amusé, à un moment donné, on se dit « Ah, j'aurais continué à m'amuser encore plus longtemps. » Qu'est-ce qu'on s'amuse? Et c'est un peu le feeling que vous avez quand vous n'écoutez pas Ménage à deux. Vous dites « Qu'est-ce que je m'amuse? Et qu'est-ce que j'aimerais que ça dure plus longtemps? » Alors, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, les jeux trop courts. Alors, ici Luc.
Ici Jake.
Et vous écoutez notre podcast de jeux de société.
Ménage à deux.
Bienvenue, groupe.
Allô? C'est parmi les pires. Mm-hmm. C'est parmi les pires.
C'est comme... Oui?
Ouais, oui. T'as déjà commencé avec une telle voix, là, puis t'es comme, allô, les demi, ben oui, la vie est trop courte. C'est comme, mais d'habitude, tu changes. Puis tu fais une blague, tu reviens à la réalité. Mais aujourd'hui, non, tu as continué juste...
Aujourd'hui, la blague, c'est moi.
À tous les jours.
Exactement.
Luc et Luc, comment ça va, mon gros?
Ça va, j'ai reçu un Kickstarter hier.
Ah, lequel?
Eternal Palace.
Ah, je pense pas que j'ai entendu parler de celui-là.
C'est un Kickstarter, je l'ai reçu hier.
C'est pour ça.
Exactement.
Et parfois, j'entends parler des Kickstarter, parce que le monde, tu sais,
oui,
triple là-dessus, mais pas celui-là.
Oui. Tom Vassell a dit que c'était un peu dans la veine de Kingsburg.
Sais-tu quoi? Ben, on va rien gâcher, mais Kingsburg, j'allais le mettre pour une autre liste. Mais cool, je vais checker ça. C'est quoi encore? An Eternal Palace?
Eternal Palace.
Cool.
Oui. Connais-tu des gens, des personnes qui s'appellent Randy?
Oui. Oui.
Okay. Quelle est la capitale du Myanmar?
Randy. Est-ce que tu connais des gens qui s'appellent Randy en français?
Randy. Ouais, non. Randolph.
Randy. C'est Randy qui a conçu ce jeu-là, c'est ça que tu dis?
Non, c'est pas ce jeu-là, c'est un autre jeu. C'est okay. Cascadia. Cascadia, c'est Randy Flynn.
Cool.
Et j'ai ce jeu-là, puis je voyais le nom, puis je disais, ce gars-là a définitivement plus de 50 ans. Dans ma tête, quelqu'un qui s'appelle Randy a 50 ans ou plus, c'est sûr.
Je pense que d'habitude, c'est le cas. Je pense. Mais je connaissais un gars à l'école secondaire qui s'appelait Randy. Donc.
Oui, mais t'es pas loin de ça. Mais je veux dire, OK. Hey, je veux juste dire, OK,
non, arrête donc ça tout de suite, là. Je suis loin de 50 quand même. Chris, je peux même pas penser à la quarantaine encore. Calice, on vient de finir la quarantaine. Je vais pas faire l'autre.
OK. Admettons que t'arrives au bureau demain. OK, je sais que tu vas pas au bureau encore, mais admettons que t'arrives au bureau demain.
Oui.
Là, ta collègue Susan te dit, oh! Here's my son, Randy. Et puis là, il y a 6 mois, tu dis, man, il y avait d'autres choix dans le monde.
Ben, même ma collègue Susan va pas avoir mon âge. Quand tu dis Susan me présente son fils, moi, je pense que, OK, Susan a 50, Kek, puis Randy a 20. Tu sais, comme, j'étais comme. Les deux noms sont vieux.
OK, Megan, ta collègue Megan te présente son fils. Tu te présentes son fils, puis ton fils a 6 mois, puis il a dit Randy.
Je sais pas pourquoi, mais quand tu dis Megan, je pense à une belle fille dans la vingtaine, trentaine max. Pourquoi elle est belle? Je ne sais pas. Mais la majorité de Megan que j'ai déjà rencontrées sont belles.
Là, je vais faire du name dropping que personne ne va connaître parce que ça date de trop, là, mais comme mon ancien batteur dans mon groupe, c'était le batteur avant qu'il soit dans The Truce, qui était un groupe populaire, mettons, au début des années 2000 en Ontario,
oui,
puis dans le Canada anglais. En tout cas, Sean, quand on jouait ensemble, sa blonde s'appelait Megan, puis je sais pas pourquoi, j'ai connu plein de Megan par la suite, mais la seule Megan que j'ai en tête quand je pense à Megan, c'est Megan. Cette Megan-là.
Intéressant.
Pourtant, j'ai une amie beaucoup plus proche que cette Megan-là qui s'appelle Megan, qui est une Louisianaise, mais c'est la première qui me vient en tête, c'est...
J'espère que ça vient pas à la tête. Ça t'arrache, ça t'arrache la tête. La oui. Megan, cette Megan-là.
Oui, en fait, ça c'est drôle parce que j'ai une petite histoire rapide, là, mais cette
avec
Megan-là...
Avec toi, ce n'est jamais le cas, mais vas-y.
Ouais, ben, ça va être super rapide, c'est un épisode okay. Sur les jeux courts.
On parle la minuterie, là.
Oui, c'est 30. Ça, je te jure, moins d'une heure. Donc, vas-y. Quand j'étais animateur, c'était ma première année, puis elle était ma première année à l'Université Sainte-Anne. J'étais animateur en résidence, et puis une soirée, j'étais dans ma chambre et j'étais en sous-vêtements. Et tout à coup, j'entends des cris, mais quand je vous dis des cris, quelqu'un est en train de mourir. Fait que moi, je décolle de la chambre en sous-vêtements à courir avec le poing levé pour sauver quelqu'un. Puis je vous promets, j'étais là pour aller sauver quelqu'un. Et cette Megan-là, justement... La porte de sa chambre était ouverte, puis elle était en panique. Puis finalement, j'ai découvert la raison de son drame était tout simplement que à cette époque-là, on pouvait fumer. C'était en 1999, on pouvait fumer dans les résidences. Et puis, elle avait ouvert sa fenêtre pour fumer, tu sais, pour se sortir la tête un peu de la fenêtre, puis fumer, pour pas que ça empeste sa chambre. Puis elle était partie au bar, puis quand elle est revenue le soir, sa fenêtre était ouverte, et puis... C'était le moment de l'année où il y avait des hannetons, des June bugs, si vous connaissez. C'est une sorte de groupe. C'est presque un scarabée, mais qui vole. Un hanneton en français, si vous cherchez H-A-N-N-E-T-O-N. Puis sa chambre était complètement remplie de June bugs partout. So, je suis retourné dans ma chambre, j'ai mis des vêtements, puis pendant à peu près 45 minutes, on a sorti des June bugs de sa chambre parce qu'il devait en avoir 75. Dans sa chambre même. Donc, ça a été ça mon expérience avec Megan. Et ça, Megan, c'est venu du fait que j'ai parlé de Randy. Puis Randy, c'est le créateur de Cascadia. J'ai parlé de Cascadia tout simplement parce que je l'avais eu puis que c'est un podcast de jeux de société. Comment vas-tu, Jake?
1h45. 1 minute 45 secondes, je devrais dire. C'était... Il y a toujours un genre de calcul de coûts et bénéfices là, lorsqu'on passe temps avec Luc. Puis c'est comme, ça m'a coûté combien de temps de ma vie? Mais parfois, c'est bon. Tu sais, c'est comme avec Luc, on dit, hey, il dit, j'ai une histoire. Puis moi, c'est comme si je suis au casino. Je suis soit sur le point de gagner beaucoup d'argent, puis ça va être vraiment comique, ou soit ça va être des astuces de Junebug dans une chambre de résidence.
Est-ce que c'était bon pour toi? Peu importe, c'était bon pour moi.
Oui.
C'est ça.
Moi, je suis le type que c'est toujours bon pour moi.
C'est vrai?
Oh.
Parlant de bon pour toi, les trop courts, les jeux trop courts.
Il n'y a pas de mauvaise histoire, tu sais.
Jake?
Oui, je vais bien. Oui, merci. Je vais bien.
Oh.
Moi, je pensais que ça allait beaucoup plus intéressant. T'as dit, j'étais en bobette. Moi, je suis comme, all right, where's this going? J'étais intrigué à ce point-là. C'est comme, va-t-il faire quelque chose de drôle avec ses bobettes? Puis là, t'es comme,
oui,
je me suis habillé, puis on est sorti des antennes.
Non, je suis sorti en courant dans le couloir jusqu'à sa chambre en sous-vêtements.
Le point levé. Moi, j'étais comme, t'es-tu certain que c'était le point levé, puis pas autre chose?
Donc, j'étais vraiment comme un. J'explique. J'écoute.
Explique. Wait, ça se lève?
Oui. Donc, j'étais vraiment comme un super-héros parce que les super-héros sont toujours en sous-vêtements. Donc, j'étais en sous-vêtements. C'est juste que j'étais plus comme Aquaman qui a juste un sous-vêtement en bas. Là,
c'était quel type de. Ben non, Aquaman. Tu parles du film récent, mais moi je pense à la bande dessinée. OK. Oui, je vais bien. Est-ce que tu as joué quelque chose récemment? Oui, 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 oui. Ça dérape, comme d'habitude en français. J'allais te poser la question, tu portais quoi comme bobette? C'était des tidy whitey, c'était des boxers, c'était des boxer briefs, comme, donne-moi
un... OK, je vais changer de super-héros. J'étais plus comme Hulk.
Ah, OK. Bulk.
Ouais, c'est ça. J'avais, puis c'était pas des bobettes, c'était des jeans, des short jeans.
Oh my God. Oh my God. J'espère que Moose écoute ça en français cette fois-là, parce que just dire bulk. Oh my God. Excuse.
Je suis en train d'écouter un podcast ces temps-ci sur les mauvais films. C'est un,
qui s'appelle Ménage à deux.
Oui, non, il y a un podcast qui s'appelle Les films dans le cabanon, puis ils font juste faire des critiques de mauvais films.
OK.
Puis, il parlait d'un film à un moment donné qui est comme une sorte de spoof de The Incredible Hulk. Puis ça s'appelle The Amazing Bulk. Ça se trouve assez facilement. Je pense que ça se trouve sur Tubi. En tout cas, ça se trouve assez facilement. J'ai commencé à regarder ça. Là, puis c'est incroyable parce que le film au complet est fait avec du stock footage, des images générées à l'ordinateur, mais genre qui ont acheté en ligne. Donc, okay. J'ai regardé le budget du film au complet, c'est quelque chose comme 14 000 $ là.
Wow.
Donc, puis c'est quand même assez amazing. The Amazing Bulk.
Amazing Bulk. Est-ce que moi j'ai joué à quelque chose récemment? Qui commence?
Vas-y, oui. J'ai tapé mon micro. Vas-y, à quoi as-tu
correct.
Joué récemment?
Je vais le remover, oh my God. Je vais l'enlever.
Non, enlève pas ça, tu viens de dire remover, laisse ça là.
Yeah, call this. Remover.
Laisse remover là, puis laisse mon cou.
La quantité de fois en anglais que j'ai dit de croire que ça se dit pas en anglais parce que je parle trop en français, puis là, le monde est comme, ce gars-là est bizarre, pourquoi il parle de même? Anyway.
C'est pas grave, je fais la même chose.
Ouais, je sais, mais toi, t'es nul. C'est la différence. Oui. Moi, oui, j'ai joué à quelque chose récemment. C'est un jeu qui s'appelle Lost Cities Roll and Write. Comme vous le savez déjà, j'aime beaucoup les Roll and Write, ou j'aime quand même ça, pas beaucoup, beaucoup. Et j'essaie de trouver mon Roll and Write préféré. Et donc, je pense que j'ai acheté ça à Lost Déjà à Gatineau, je l'ai vu, c'était pas trop cher. Puis je m'en suis procuré une copie. Et c'est un jeu où on lance des dés, puis on écrit de quoi, quelle surprise. Mais ça utilise le nom Lost Cities, ou les cités perdues, c'est le nom du jeu de cartes en français. Il y a quelques similarités, mais c'est pas vraiment la même thématique. Mais il faut dire qu'il y a pas vraiment une thématique dans Lost Cities de toute façon. C'est quand même collé sur le jeu. C'est pas un bon thème intégré. Mais bon, Lost Cities, Roll and Write, tout le monde reçoit un petit morceau de papier. Et sur les morceaux de papier, il y a 6 colonnes en couleur. Donc, 6 couleurs différentes. Puis là, il y a 2 autres colonnes supplémentaires avec des genres de peau, les genres de peau de l'ancien temps, là, et une autre colonne avec des dés là-dessus, juste des images de dés. Il y a 6 dés, 3 dés colorés, puis 3 dés avec des chiffres là-dessus. Comment ça fonctionne? On doit essayer de remplir les colonnes, pas toutes les colonnes si on ne veut pas, c'est à nous décider lesquelles qu'on va essayer de remplir ou de compléter. Et les 6 couleurs, ça rappelle un peu les 6 cartes de couleurs dans les cités perdues, si vous avez l'extension ou la nouvelle version, parce que la version de base venait juste avec 5 couleurs. On doit écrire des chiffres en ordre croissant, du bas jusqu'en haut. Et on peut aussi mettre un chiffre avec un chiffre qui est égal au chiffre inférieur. Ça, c'est bizarre à dire. Parce que ça monte, j'utilise inférieur. Un chiffre égal à celui d'inférieur. Mais bon, donc on lance le dé. Il y a un joueur actif qui lance toutes les 6 dés. Et le joueur actif a le droit de retirer un dé de chiffre. Et donc, effectivement, c'est la couleur et le chiffre du joueur actif. Les autres joueurs, jusqu'à 5, ça joue jusqu'à 5, ont le droit de prendre n'importe quelle couleur qui reste et n'importe quel chiffre qui reste. Donc, c'est cool parce que même si tu n'es pas le joueur actif, tu as quand même la chance d'avancer dans tes expéditions, comme ça s'appelle dans le thème. Et on a aussi le choix de miser sur une certaine colonne en disant que je vais aller quand même loin là-dedans et donc ça va valoir le double. Mais comme Lost Cities, au départ, les premiers 3 cases, c'est des points négatifs. Il faut quand même rejoindre un certain niveau dans chaque colonne avant que ça commence à valoir de l'argent ou des points positifs. Donc, on fait ça, on lance les dés, le joueur actif reprend deux days ou retire deux days de des autres days et on note le chiffre et la couleur qu'on a pris. Et les autres, ils font pareil. Puis là, c'est un autre joueur qui est le joueur actif. En mettant des chiffres, il y a des symboles dans les petites cases, dans les colonnes. Parfois, c'est des pots, comme je mentionnais tantôt. Puis tu peux enlever un pot. Puis avec chaque pot, même chose. Tu as des points négatifs jusqu'à un certain point. Puis là, c'est des points positifs. Et là, il y a une autre colonne que j'ai mentionnée qui montre juste les dés. Puis c'est quand on refuse de prendre des chiffres ou une couleur pour une certaine ronde. Et on peut le faire jusqu'à genre 7-8 fois. Puis, encore une fois, au début, c'est des points négatifs, mais éventuellement, ça monte jusqu'à 70 points. Mais si on est pour prendre une autre fois, une dernière fois, on est épuisé, on ne peut plus utiliser cette action-là et on a zéro point. Donc, il y a une certaine gestion de quand utiliser les dés, quand de ne pas les utiliser, quel dé que je veux mettre, quel chiffre que je veux mettre. Et au début, j'ai dit, ouais, ça, c'est un jeu qui va s'en aller au village des valeurs. C'est pas bon, c'est plate, c'est vraiment pas le fun. Mais plus que ça avançait, plus que je trouvais ça intéressant. Puis les décisions devenaient intéressantes. Même au point que j'ai pris une couleur que j'avais pas touchée toute la partie parce que de perdre moins 20 points était plus intéressant que de ne pas prendre les dés pour cette ronde-là puis de perdre mes 70 points que j'avais pour les dés. Donc, c'était comme un calcul de coût-bénéfice. Comment on fait chaque fois qu'on écoute une histoire de Luc? Et là, c'est vraiment intéressant parce que tu veux certaines couleurs, mais le joueur actif peut prendre la couleur que tu voulais. Et là, tu dois faire quelque chose avec ce qui reste. Donc, ça devenait de plus en plus intéressant. À la fin de la partie, j'étais comme « cool, je jouerai à ça encore une fois avant de décider si je m'en débarrasse » parce que c'était quand même bon finalement. Mais au début, c'était un peu plate, un peu trop ouvert. Mais oui, j'ai aimé ça. J'y jouerai encore. C'est pas mon Roll and Write préféré. Peut-être que je m'en débarrasse un jour. Mais c'est une petite boîte. Ce n'était pas très cher. Je crois que j'ai payé 17 ou 19 piastres, quelque chose comme ça. Donc, si vous aimez ce que vous avez entendu et ça vous tente, Lost Cities ou Les Cités Perdues en français, Roll and Write. Decent jeu.
Excellent. Le thème a l'air un peu tiré par les cheveux. Là, c'est vraiment, on dirait, seulement qu'il essaie d'essayer de traire la vache, hein, comme je le dis souvent, en essayant d'aller chercher la thématique d'un jeu très connu, très populaire, Lost Cities, en se disant... Mais c'est bizarre un peu en même temps parce que j'ai l'impression que les seules personnes qui connaissent Lost Cities sont des geeks de jeux et tous les geeks de jeux connaissent Reiner Knizia. Donc... T'as juste besoin de mettre Reiner Knizia sur un jeu et puis les joueurs vont l'acheter. C'est un peu. Mais, c'est peut-être pas un Bruno Catala, mais c'est quand même.
Mais il y a une limite à ça. Parce que moi, j'ai vu le nom. Il y a de mauvais jeux aussi, comme tout le monde. C'est jamais parfait. Mais si on va essayer de traire la vache ou bien The Awesome Bulk, Amazing Bulk.
The Amazing Bulk.
C'est que. Il y a une limite à ça. Éventuellement, le monde va arrêter d'acheter des jeux de Reiner Knizia. Je pense pas que Reiner veut ça. Donc, je sais pas. Comme, oui, ça fonctionne quelques fois, mais après ça, c'est fini. Vous m'avez déçu, puis je vais être beaucoup plus hésitant avant d'acheter un autre jeu par Reiner, parce que clairement, il veut juste gagner de l'argent comme ça. Peut-être que c'est pas ça le cas.
Reiner, buddy.
Reiner. Well, Reiner.
Hey, Reiner. Non, mais
je dois dire, Reiner est un bon designer, c'est clair. Reiner the designer. Puis, je trouve juste que j'en ai joué de meilleurs par lui.
Ouais. Ouais, mais.
C'est pas
ça,
pire.
C'est le cas de la majorité des jeux de. Tous les designers ont. Tous leurs jeux, ils n'ont qu'un jeu de meilleur sauf le meilleur.
Non. Je comprends, mais c'est même pas dans le même échelon, là. Comme.
Ouais.
Voyons.
Moi, j'ai joué un de ces jeux, en fait, la semaine passée. C'est drôle que tu parles de lui parce que j'ai joué à un Genius qui s'appelle Génial en français.
Génial en français.
Génial, qui est un petit jeu abstrait, donc c'était vraiment...
Génial!
Ouais, c'est génial. C'est un peu intéressant, c'est très abstrait. Il faut juste faire des combinaisons, des lignes, en fait, de symboles et de couleurs similaires pour pouvoir faire le plus de points possible.
Génial!
Avant qu'on soit plus capable de mettre des tuiles sur le plateau. Puis ça joue assez rapidement, on en a joué deux de suite C'est quand même un bon petit jeu. Moi, cette semaine, Jake...
Génial!
Génial! L'eau, le goût de l'eau. Alors, OK. OK.
The amazing bark.
Qu'est-ce qu'on fait? Pétanque.
Toi, t'as joué à quoi alors, Luc?
Oui, je ne sais plus à quoi j'ai joué.
Parfait. Et pour cette semaine, c'était Jake.
Et c'était The Amazing Bulk. Oui, donc moi j'ai joué à Quacks of Quedlinburg, ou en français, Les Charlatans de Belcastel.
Ah, intéressant. Ben, pour une fois, en français, ils ont traduit comme il faut, là, tu sais, comme...
Comment?
Ah, mais tu sais, en français, parfois, j'utilise les noms en anglais, puis j'apprécie Les Charlatans de Belcastel plus que Quacks of Quedlinburg, même, tu sais.
Ouais, qui est pas un, dans les deux cas, qui est quand même un très mauvais nom, on va se le dire.
Ça nuit à la réussite de ce jeu-là, je te gage. Comme, ouais, c'est, ben, apparemment, c'est un très bon jeu, presque gateway. Puis apparemment, le monde dit, puisque le nom est tellement nul, le monde va pas vouloir y jouer.
Cela dit, c'est sur le top 20 de beaucoup de personnes, même dans le top 10. Et puis, je comprends pourquoi.
Qui s'appelle Luc Tardif.
Ça se pourrait, je te dirais que plus j'y joue, plus je l'aime, puis même avec les extensions, c'est un peu à la Dixit, je pense que tu peux mettre les, t'achètes des extensions, puis tu peux les ajouter au jeu, puis tu peux jouer sans, mais après un bout de temps, tu viens que t'as tout le temps les mêmes règles et tout ça, mais là, t'ajoutes, il y a beaucoup de rejouabilité, il y a deux côtés au plateau et tout ça, mais j'ai joué à Quacks of Quedlinburg parce que la version que j'ai c'est en anglais, donc Les Charlatans de Belcastel. Je regardais comment ça s'appelait la version originale, je pense que c'est en allemand, on va regarder comment ça s'appelle en allemand. Korean, Spanish, Dutch, French, German, Die Quacksalber von Quedlinburg. Ah ben, voici, wow. En allemand, on met Quacksalber von Quedlinburg. Donc, en français, c'est Les Charlatans de Belcastel, parce que c'est la traduction directe, sans aucun doute, de Quedlinburg.
Quedlinburg.
Oui, et donc, j'ai joué à ça, mais j'ai joué aux deux extensions. J'ai pas joué aux deux extensions au complet. J'ai regardé plein de critiques, puis... on disait que pour les Herb Witches, qui est en français, ça par contre, je dois avouer que je ne sais pas comment ça s'appelle en français, The Herb Witches. On va regarder vite.
Les sorcières de l'herbe.
Les sorcières de l'herbe. English, French, les sorcières s'en mêlent. OK.
OK.
Oui, c'est ça, Les Sorcières s'en mêlent. J'ai joué à cette extension-là et à l'extension Les Alchimistes, j'imagine que ça s'appelle, parce que c'est The Alchemists en anglais.
Ouais.
Les Alchimistes. On va regarder. D'un coup, ça soit Les Alchimistes s'en mêlent. Non, Les Alchimistes. J'avais entendu que l'extension Les Sorcières s'en mêlent était... correct, mais sans plus, qu'on n'était pas obligé de jouer vraiment avec les sorcières. Ce que j'ai fait, je n'ai pas joué avec les sorcières, mais j'ai quand même pris les jetons supplémentaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les deux extensions, il arrive de nouveaux jetons, il arrive de nouvelles parties du plateau aussi qui se connectent au plateau. Ça prend plus de place sur la table. Ça, c'est une partie qui est un peu tannante de ça. Avec que les sorcières s'en mêlent, on récupère des citrouilles de valeur 6 puis une sorte de fleur dont j'oublie le nom, ainsi que les livres qui vont avec, parce qu'on a un peu des livres de règles et puis qu'on peut changer à chaque partie, donc les règles sont jamais les mêmes. On en a des supplémentaires. Et avec les alchimistes, on ajoute un bécher en haut de notre chaudron. Et à droite, on peut ajouter une petite partie que j'ai pas ajoutée là pour les premières parties, donc je peux pas vraiment vous dire ce que ça fait. J'ai même pas lu cette partie-là. Et dans le bécher, ce qui arrive, c'est quand on a fini de faire notre potion. Donc, si vous avez déjà joué au charlatan, vous allez comprendre. Donc, c'est un stop ou encore, on continue, et on doit arrêter avant que tous nos jetons blancs aient une valeur totale de 7. La valeur totale atteint ou dépasse 7, on explose et on a moins d'avantages à la fin de la ronde. Donc, quand ça, c'est fini, cette partie-là, on regarde combien il y a de couleurs dans notre chaudron et puis on avance notre jeton sur la piste du bécher en haut jusqu'à un certain point et dépendant de où ça arrive, on gagne certains avantages. Et ça, on le sait au début de la partie, quels avantages on veut gagner parce qu'on va piocher 3 malades dans un sac et on va mettre leurs cartes devant tout le monde et tout le monde peut choisir un malade différent ou le même malade. Et puis, ce malade-là nous donne des avantages chaque fois qu'on le soigne grâce à notre bécher, grâce à la piste du bécher. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne des avantages supplémentaires. Ça ajoute une sorte de petite excitation au jeu parce que vous vous dites, OK, maintenant, je veux pas juste avancer le plus loin dans mon chaudron, je veux aussi essayer d'avoir une variété de couleurs parce que le plus de couleurs j'ai, le plus j'avance dans le bécher. De plus, si mon voisin, ma voisine explose ou sa recette explose, j'avance d'un de plus. Et si moi, je me rends jusqu'à 7, qui en principe explose, sauf si on a certains ingrédients spéciaux, si j'arrive à 7 exactement, j'avance d'un de plus là-dedans. Donc, ça rajoute vraiment un peu de piquant. On a des livres supplémentaires, on a des ingrédients supplémentaires. Il y a un des ingrédients supplémentaires qui est une sorte de fleur qui a pas de numéro. Il y a pas de numéro sur ces fleurs-là. Ça dépend du livre qu'on va ajouter devant au début de la partie et qui va nous donner des règles supplémentaires. Alors, en gros, j'ai pas joué à 100% des deux extensions, mais j'ai joué j'ai joué à beaucoup des alchimistes, sauf une petite partie. J'ai joué à une partie seulement de The Herb Witches, les sorcières sans mêles, mais je suis encore plus satisfait de ce jeu-là. J'adore les charlatans de Belcastel ou Quacks of Quedlinburg. Et c'est à ça que j'ai joué cette semaine.
C'est vraiment bien. J'ai envie d'essayer ce jeu-là. Ça fait quelques années que j'entends parler, puis malheureusement, j'ai jamais eu la chance. Donc, peut-être un jour avec toi.
Ce qui est cool avec ces deux extensions-là aussi, c'est que si vous enlevez l'insertion dans la boîte de base, vous pouvez mettre totalement tous les morceaux dans la boîte de base des deux extensions et du jeu de base. De toute façon, l'insertion dans la boîte de base est vraiment totalement générique. Là, c'est celle-là quand t'as comme t'as une sorte de barre de carton dans le milieu, puis il y a juste deux sections pour rien. Là, ils ont juste décidé, on va faire la même insertion que pour plein de jeux. On enlève ça, puis tout fonctionne.
Enlève-moi ton insertion, Luc.
Oh, c'est trop court.
Oui.
Comme les jeux aujourd'hui.
Oui, on va parler des jeux qui sont trop courts. Je ne sais pas comment toi t'as fait ta liste nécessairement, mais moi, je voyais ça comme assez subjectif dans le sens que parfois on pourrait dire oh, un jeu est trop court, alors ce n'est pas bon. Mais c'est pas vraiment le cas. Il y a des fois pour moi, ma liste, je pense que j'aime tous les jeux là-dessus, sauf un jeu, on verra. Et je dirais que oui, ça pourrait être un petit peu plus long, on pourrait ajouter quelque chose, mais j'ai le sentiment quand ça termine que j'aurais pu continuer. Donc, je pense que quand quelque chose est trop court, c'est probablement parce qu'on a aimé en général ça. Mais parfois, j'étais comme, quelqu'un pourrait dire que c'était pas un bon jeu puisque il y a quelque chose qui fonctionne pas et c'est pour ça que c'est trop court. Mais bon, j'essaie juste de prendre certaines catégories comme j'avais l'impression d'être sur le point de faire quelque chose de cool ou on voulait pas arrêter de jouer à ça ou il y avait quelque chose qu'on n'utilisait pas. Comme j'ai quelques différentes justifications qui expliquent pourquoi je trouve le jeu trop court. Est-ce que toi, tu as fait quelque chose de similaire?
Ça ressemble à ça. J'ai certains sentiments différents par rapport au jeu sur ma liste. C'est pas juste que des jeux qui sont trop courts dans les faits. Parfois, c'est juste le sentiment que le jeu est trop court. Je sais pas si ajouter du temps à ce jeu-là améliorerait le jeu en tant que tel, mais on va en parler à mesure que ça avance. Mais ce que j'ai fait au départ, en fait, la raison pour laquelle on a pensé à ce thème-là, c'est que j'étais en train de jouer un jeu. Puis quand je suis arrivé à la fin, j'ai fait « Ah! J'aimerais tellement que ça continue. » Et puis là, j'ai dit...
C'est quoi le son?
« Ah! J'aimerais tellement que ça continue. »
À la fin, j'ai fait « Ah!
Ah! » Et voilà. Et puis, là, je me suis dit « Pourquoi pas faire une liste des jeux trop courts? » Et éventuellement aussi des jeux trop longs, on va en parler plus tard, mais c'est un
peut-être.
Petit, c'est un petit spoiler.
Pas divulgachement, là.
C'est un petit spoiler, quoi.
Ouais.
Ouais, ça ouais. Spoil. Tiens. Ça spoil tiens, méga mec.
Tiens.
Super méga, juste quoi.
Mec.
Ouais,
mec.
Ouais, mec, meuf. Que dalle.
J'ai aucune idée comment les Français parlent. Je l'aime juste pas.
Ouais, ben, c'est comme si t'avais un citron dans la bouche, là. Tu te mets un citron, pis ça fait.
En parlant de Eddie Vedder, il était à Ottawa récemment.
Ah ouais, c'est vrai. J'ai presque.
Ils ont joué un spectacle.
Ouais, j'ai presque acheté un billet, mais ça tombait mal sur les dates un peu. Vu que c'était trop proche de la rentrée scolaire, j'ai décidé de pas le faire. Mais j'hésitais à t'aller.
T'étais dans la nouvelle? Parce qu'il est allé à comme un genre de club de sport pour jouer à tennis.
Ouais.
Puis le monde est comme, hey, on pouvait pas croire qu'il est passé par ici. Puis comme dans l'article, je pense que c'est CBC Radio-Can, qui c'est comme, hey, oui, ça c'est la raquette qu'il a utilisée. Puis le monde est comme, oh, et ça c'est le terrain qu'il a joué sur. C'est comme, man, on se calme, là. C'est juste, toi, tu dis souvent, si tu rencontres quelqu'un, tu vas pas être starstruck, tu sais?
Non.
Mais moi, je pense que si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comme rencontrer la personne, je vais être starstruck. Mais je vais pas comme prendre la raquette après et être comme, c'est Eddie Vedder qui a joué à tennis avec cette fucking raquette.
Je m'en fous totalement. J'ai zéro. Non, moi, non,
mais
ça, c'est
Louis-Jean
pas...
Cormier. Louis-Jean Cormier.
Aujourd'hui, j'ai acheté.
J'aurais de la misère.
Pour vrai?
Je ne sais pas ce que je lui dirais. Hi, j'aime ta musique. OK, ouais. Bye. Tu sais, comme, t'as une drôle de voix quand tu parles. OK, merci, bye.
Ouais, je vais lui envoyer un message ce soir parce que aujourd'hui, j'ai acheté 4 billets pour aller. Il vient en spectacle à Halifax
dans
2 semaines. Fait que on va. Je vais aller le voir. Puis
ben,
ça fait,
tu lui diras salut de ma part.
Ça fait. Je vais dire, si jamais tu vas à Ottawa, puis il y a un grand blond avec un accent trop ouais. Québécois, mais tu sais que tu vois que c'est
ben
un
oui.
Anglo qui parle québécois
qui
va te voir. Mais c'est Jake. Et ça.
Oui.
Mais non, ça fait des. C'est un peu étrange. Ça fait des. Tu sais, on a joué dans le même groupe, mais ça fait des années que je l'ai vu et même que je lui ai parlé. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était par Facebook. Ça doit faire 6 ans, 7 ans. Et puis, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pendant. Quand il était dans Carquois, j'étais allé au studio où il enregistrait dans le temps. Donc, ça fait hyper longtemps.
Tu sais, là. Oh, ouais, Luc, là. Comment ça va, Luc? Tu sais.
De quoi?
Vous allez vous parler? Tu sais que lui, il a comme un voix qui est comme genre...
Ouais, il parle
ouais,
un peu comme ça.
Ouais, il parle un peu comme si il était à mi-chuchotant, puis à moitié, il est en train de parler. Puis,
ouais, il parle un peu doucement comme ça.
Un peu doucement comme ça.
Ouais.
J'aime ça.
Mais il parlait, parlait pas comme ça quand il était plus jeune. Je pense qu'il, je pense qu'il est devenu zen un peu avec l'âge.
C'est le fame qui a changé.
Mais je pense qu'il est devenu zen et tout ça. Là. C'est un peu... En tout cas, peu importe.
Non, j'aurais pas la misère, mais mettons comme après un spectacle de Vincent Vallière, un de mes artistes préférés.
Ouais.
J'étais là, puis j'étais comme, well, I guess que je pourrais aller le rencontrer pour être comme, hey man, j'aime ta musique, merci. Mais comme, qu'est-ce que je vais dire après ça? C'est pas que je.
Ouais.
C'est pas starstruck. C'est comme, j'ai rien à ajouter à sa vie. J'ai rien
ouais.
à ajouter à leur vie. Je suis juste un random dans la rue, comme n'importe quel autre rando que je trouverais. C'est pas que je pense qu'ils sont trop bons. C'est que j'arrive. Puis je dis comme, ben toi, je t'écoute tout le temps, puis je connais ta voix, puis j'aime tes paroles, puis j'aime ta musique. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, j'aime les jeux de société. Ah oh, oui, c'est bon, Jake. Je vais avoir l'air comme un esti de cave.
Yeah, mais ouais, bon. Je sais pas. Mais tu sais, je veux dire, t'as déjà fait des spectacles, puis... de musique, puis après... Évidemment, t'étais pas une vedette comme eux, là, puis la même chose, mais...
Presque.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait des spectacles, tu sais, puis les gens viennent te voir après pour te dire...
Ouais, c'est vrai. On apprécie.
Ben oui, t'apprécies. Ça donne des conversations étranges. Je me souviens une fois d'un spectacle à Halifax, qu'il y a une femme du Texas qui est arrivée, puis elle, pour elle, j'étais comme une vraie vedette. Puis j'étais là.
T'as déjà raconté cette histoire-là.
Ouais, puis je l'avais vu 10 ans avant dans un autre spectacle. Donc c'est un peu étrange. Là. Moi, je me souvenais pas de la première rencontre, mais pour elle, c'était évidemment mémorable.
Trop bu, hein? T'en as trop bu.
Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je suis pas. C'est sûr que c'est tout le temps un peu étrange. Je me souviens quand j'étais petit, j'adorais Zébulon, par exemple, quand j'étais plus jeune, puis un groupe du Québec. Puis Des années plus tard, j'ai joué avec un des membres de Zébulon, mais je me souviens quand je l'ai rencontré des années plus tard, puis je l'avais déjà rencontré avant, après un spectacle, il nous avait parlé à mon ami Steve et moi, puis on avait parlé une demi-heure à lui puis au chanteur, mais tu sais, après ça, il s'est présenté des années plus tard, puis il dit « Ah, oh, moi, c'est blablabla », puis là, j'ai fait « Ah ouais, ben, ouais, ben, je le sais, on s'est rencontrés », mais dis dans le sens, lui, c'est normal qu'il s'en souvienne pas, là, j'étais n'importe qui après le spectacle et tout ça, mais j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de ce sentiment-là de Star Trekness.
Star Trekness.
Ouais, Star Trekness. Ouais,
Star Trekness.
Une Star Trekness. J'ai pas ce sentiment.
Non, mais
sentiment-là.
Je suis capable de faire. Je suis capable de faire du small talk avec n'importe qui. Là. Je suis pas nul pour ça.
Ouais.
Mais c'est juste comme.
Avec une vedette, c'est bizarre parce qu'il y a plein de monde qui veut faire ça. T'as l'impression mais d'être
oui,
juste.
Oui, puis il sait que je suis là parce que j'aime sa musique. C'est pas comme si on s'est rencontrés puis je suis comme oh, t'es qui?
Ouais.
Puis là, éventuellement, je suis comme wow, t'es en fait très connu. C'est comme.
Yeah.
Je voudrais pas sembler comme si je suis comme un oh my god, Louis-Jean. Tu sais, mais.
Yeah, exactement.
Un jour.
C'est ça. Moi, ça me fait rire. Un des gars de Tout le monde en parle, ben en fait, Danny Turcotte, qui est plus dans Tout le monde en parle maintenant, mais qui était dans Tout le monde en parle pendant des années. Il y a, tu sais, son chum vient de la Nouvelle-Écosse, en fait, de par en bas, là, pas trop loin d'ici. Puis je connais son chum, fait que à un moment donné, je le rencontre, je dis « Hey, comment ça va? » bla bla bla. Puis tout à coup, je me rends compte qu'à côté de lui, il y avait Danny Turcotte, que je connais depuis que je suis tout petit, tu sais, parce que c'était un humoriste connu quand j'étais petit, puis après, il était à la télé pour ça. Puis là, il se présente, il dit « Moi, c'est Danny, tu sais. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu dis « Je le sais que c'est Danny, mais tu sais, je vais pas lui dire « Salut, je le sais que t'es Danny, tu sais. »
Ta gueule, tu dis ça.
c'est vraiment étrange. Ça doit être étrange d'être connu comme ça, parce que tu te présentes tout en sachant qu'il est pas mal probable que la personne te connaisse.
Mais j'aime ça qu'il a juste dit son premier nom.
Ouais,
il était pas.
Il aurait dit quoi, Monsieur Turcotte?
Qu'il dit, je suis Danny Turcotte, je suis un humoriste assez connu. Je ne sais pas si tu as déjà vu mes spectacles, mais non, tu sais, il était comme. Ouais. Je m'appelle Danny.
Non, il était très cool et tout ça, mais c'était juste un peu étrange. C'est étrange parce que.
Est-ce que tu penses. Louis-Jean, il dit qu'il s'appelle Louis-Jean ou Louis?
Non, Louis-Jean.
Louis-Jean.
Louis-Jean. Louis-Jean.
Louis-Jean. Je m'appelle Louis-Jean.
Anyway, pourquoi
Luc,
on a parlé
on va partir
de ça?
On va partir ça, les jeux courts.
Non, mais pourquoi on s'est rendu sur Eddie Vedder? Qu'est-ce qui a fait que tu as parlé d'Eddie Vedder?
Aucune idée. Tu as parlé de Eddie Vedder.
Non, j'ai pas parlé. C'est toi qui as parlé d'Eddie Vedder.
Un citron dans la bouche. Quelque chose comme ça. Là.
On imitait des Français.
T'as dit un citron dans la bouche parce qu'on parlait des Français.
Ah, puis là, toi, t'as dit Eddie Vedder. C'est ça.
Cool. Donc, mon premier jeu pour la liste de jeux trop courts, numéro 5. En fait, pour moi, c'est pas dans un ordre nécessairement. J'ai juste 5 jeux. Donc, c'est pas que le premier est mon préf ou whatever. King of Tokyo, ou en français, le roi de Tokyo. Non, c'est pas vrai.
Non, en français, c'est... Non, en français, c'est le roi de Longueuil.
Je t'ai jamais raconté la différence entre « en » puis « dans ». Puis pour moi, comme anglophone, c'est parfois difficile de distinguer la différence. Puis une fois, je parlais avec un boss, puis j'étais comme « Hey, j'ai trouvé quelque chose. »
Puis là, il a dit « Quel âge as-tu? » T'as dit « J'ai 12 dents. »
Non, j'ai dit comme... Hey, j'ai trouvé quelque chose de très suspect dans les chiffres des données analysées, là, puis il y a quelque chose qui arrive dans ce quartier de notre secteur de fréquentation, quoi que ce soit. Je travaille à une conseil scolaire. Et il était comme, ah oui, c'est intéressant, ça, parle-moi de ça. Puis je dis des détails, puis à la fin, j'ai dit, l'enquêteur dans moi est très excité. Et c'est différent que l'enquêteur en moi.
Ah, c'est très, très différent.
Très différent. Mais bon, t'as dit en François, ça s'appelle le roi de Tokyo. La raison pour laquelle que j'ai mis King of Tokyo sur ma liste, c'est parce que des astis de cartes. OK? On y joue. Il y en a qui prennent des cartes. Pas souvent, mais parfois. Et parfois, ils sont très bons à les utiliser ou comme les cartes peuvent être effectives un peu. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de vie ou bien pas assez de points que ça prend pour gagner parce que le monde utilise très rarement les cartes, puis il y en a tellement. Puis tu peux dire, oh non, mais ça ajoute la rejouabilité, Jake. C'est bon d'avoir trop de cartes que pas assez. Je suis d'accord, mais on utilise à peine 5 par partie, ish. Puis on est peut-être parfois 3, 4, 5 à jouer. Je trouve juste que ça ne réalise pas sa, son propre potentiel comme jeu. Ça pourrait être mieux. Je pense que, ben, pas un meilleur jeu, mais les cartes pourraient rendre ça plus complexe avec plus de pouvoir, les décisions plus intéressantes. Donc, si tu prenais ça, je pense que c'est 20 points pour gagner ou 10 de points de vie que tu peux perdre. Si tu te rends à 15 points de vie, 30 points, ça prend ou quelque chose du genre. Je pense que ça pourrait être cool de voir les cartes un peu plus intégrées que d'habitude. Donc, pour moi, c'est pour ça que je trouve ça pas un peu trop court. On n'utilise pas cet aspect du jeu, puis ça finit parce qu'on fait juste rien que se battre constamment, puis clac, il y a quelqu'un qui gagne. Mon numéro 5, King of Tokyo.
Bon choix, bon choix. Et j'aime tes raisons. En passant, je sais pas pourquoi, juste je te parle, puis j'ai une fenêtre de Google d'ouverte à côté de moi, là, puis... Ça, c'est si vous écoutez ça en 2027, par exemple, la reine Elisabeth vient de mourir aujourd'hui. Puis là, c'est écrit, décès d'Elisabeth II, deux points, notre couverture en direct. Puis là, j'imagine, je sais pas, c'est pas drôle du tout comme situation.
Tu pensais comme une couverture, comme un blanket?
Non, c'est pas drôle comme situation, mais j'imagine juste les nouvelles comme qui font Elisabeth II est morte. Puis là, il se passe rien. Il n'y a rien d'autre. Comme il n'y a rien à dire, elle est juste décédée. Comme il n'y a rien d'autre à dire.
Ouais.
Tu sais, la couverture, c'est quoi? De toute façon, revenons à nos moutons. Mon numéro 5, Jake, sur les jeux trop courts. Mon numéro 5, c'est un jeu qui s'appelle Cartographers, les cartographes, je sais pas, j'ai même pas vu s'il y avait une version française de ça.
Jamais vu en français.
Cartographers, c'est un jeu dans lequel, c'est un flip and write, dans lequel on va remplir une carte. Donc, on va se faire une carte d'un monde, de contrées lointaines et tout ça. Et ce jeu-là, quand on arrive à la fin, j'ai tout le temps l'impression qu'il est un peu trop court parce que plus les saisons avancent, plus les saisons raccourcissent. Donc je pense que c'est ça. Je pense que il faut se rendre un certain nombre de points avant que la de points. Il y a sur les cartes il y a des points. Il y a comme une sorte de coup à chaque carte. Et chaque fois qu'on tourne une carte, on additionne. Et si on arrive, je crois que pour la première saison c'est 8, ensuite 7, 6 et 5 à la fin. Donc les saisons sont de plus en plus courtes. Et quand j'arrive à la fin, parce que la façon de faire des points dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une combinaison. Donc par exemple, il y a quatre façons de faire des points. Il y a quatre cartes pour faire des points qui sont dévoilées au début de la partie, puis ça change à chaque partie. Et pour la première saison, on fait la carte A et B, pour la deuxième B et C, pour la troisième C et D, et pour la dernière D et A. Donc, chaque carte va seulement être utilisée deux fois dans le décompte de points. Mais parfois, on a tendance à se faire une stratégie en pensant de façon erronée qu'on va pouvoir l'utiliser plus tard. Puis là, tu fais « Ah, non, c'est fini, je peux plus faire de points avec ça. » Et c'est un peu le feeling que j'ai avec Cartographers, surtout que puisque les saisons vont en raccourcissant, cette partie-là est un petit peu décevante quand on arrive à la fin, mais c'est quand même un excellent jeu. Cela dit, si le jeu était plus long, on aurait probablement plus de place sur notre carte. Donc, d'une certaine façon, c'est bien designé. Peut-être qu'ils auraient pu faire le papier un petit peu plus gros, mais quand même, c'est un excellent jeu. J'ai juste ce sentiment-là quand j'arrive à la fin du jeu de presque juste commencer à avoir ma machine pour faire des points et puis tout à coup, le jeu finit. Alors, numéro 5, Cartographers.
Mon numéro 4 est un jeu de dextérité où on prend les dés et on les pichenote pour les faire tomber. De certaines plateformes, on essaie de les faire tomber dans une place spécifique pour les points. Ça s'appelle Tumbling Dice. C'est un peu drôle de mettre un tel jeu dans un jeu qui est trop court parce que tu peux dire ben,
c'est effectivement très étrange.
Très étrange. Mais Jake, je te rends le plus long. Et c'est ce qu'on fait. Parce qu'à chaque fois, on va dire OK, on joue, c'est la première personne à 100 points qui gagne la partie. Puis là, en arrivant vers 100 points, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ben, faisons 250, faisons 250. » Puis là, c'est comme « faisons 500, faisons 1000. » Et j'ai même dit les mots, j'ai même entendu au moins, j'ai oublié si c'était moi ou quelqu'un d'autre, qui a dit « 1500? » Tu sais, puis on en a eu assez, là, comme C'est tellement un bon jeu. On est accroché quand on commence, on veut continuer. Puis c'est ce sentiment quand tu joues à quelque chose comme un tic-tac-toe je ne sais pas moi, n'importe quel petit jeu vite, là, puis tu te fais, OK, deux de trois. OK, on fait un 3 de 5. On en fait un 4 de 7. On veut avoir la chance à remporter la partie. Donc, on prolonge la quantité de points que ça prend. Et ça m'arrive tout le temps avec ce jeu-là parce que c'est tellement hilarant. C'est le fun, c'est amusant. Tout le monde s'amuse en y jouant. C'est juste un bon jeu de dextérité avec un verre dans la main. T'as juste besoin d'une main, puis on jase, on pichenote, on s'amuse. Mon numéro 4, Tumbling Dice.
Tumbling Dice. Je dois t'avouer que j'ai pas vraiment ce sentiment-là en jouant à ce jeu-là. J'ai vraiment pas parce que justement, on peut faire plein de petites parties ou allonger le score. Donc, comme je disais, je l'ai dit en anglais, comme par exemple, si on joue à Santorini, oui, c'est très court, mais j'en joue 6 parties de suite. Donc, le feeling est pas un feeling de jeu trop court. Mon numéro 4, c'est un jeu que t'as déjà mentionné. Et je...
Non.
C'est Tumbling Dice. Non, c'est King of Tokyo. King of Tokyo.
Ouh, chevauchement.
Oui, je te chevauche. Alors...
Chevauche-moi, mais enlève-toi.
Oui, c'est ça. Mais c'est trop court. Alors, King of Tokyo, un peu pour les mêmes raisons que toi, je trouve que c'est trop court. Mais aussi, dû au fait que je perds tout le temps à ce jeu-là, très rapidement. Puis je sais pas, j'ai joué contre plein de monde à ce jeu-là, puis on dirait qu'il y a des personnes qui sont meilleures à gagner. J'ai joué en ligne contre des geeks experts de ce jeu-là, puis on dirait qu'ils sont capables de s'acheter plein de cartes. Moi, je finis le jeu avec deux. Ça m'est déjà arrivé, peut-être une ou deux fois, tu sais, de chance à réussir à avoir plein de cartes. Il y a une carte qui te permet de voler les cartes des autres, par exemple. Et là, j'ai récupéré plein de cartes comme ça, puis j'avais des combos intéressants, mais King of Tokyo, je dois avouer, j'ai vraiment, vraiment du mal à gagner ce jeu-là. D'ailleurs, je suis presque tout le temps un des premiers à mourir, ce qui en fait un jeu un petit peu trop court. Alors, King of Tokyo, mon numéro 4.
C'est un très bon choix, j'apprécie tes points. Puis il y a un autre jeu que j'ai pas mis sur ma liste, que j'avais le même raisonnement, de que ça finit trop vite à cause de l'élimination.
Excellent.
Mon numéro 3 est un jeu qui s'appelle Castles of Mad King Ludwig. Je ne sais pas s'il y a une version française, mais les châteaux du roi Ludwig.
Fou.
Je ne sais pas. Le roi fou, c'est vrai, j'ai oublié un mot. C'est un jeu de placement de tuiles. Je l'aime, c'est intéressant. On achète des pièces d'un château. On essaie de développer un château avec plein de pièces. Puis les pièces... On a des gens d'objectifs qui nous guident un peu ou qui nous mènent un peu dans où on va placer nos pièces. Mais c'est drôle parce que de certaines pièces finissent à côté des pièces qui ne devraient pas, comme la chambre qui est à côté de le mangeoir des animaux, quelque chose comme ça. C'est assez comique de voir les différentes chambres qui finissent ensemble. Je trouve qu'à la fin de ce jeu-là, à la fin de chaque partie, tu vois ton château, tu commences à comme avoir un château, c'est vraiment comme une vraie structure que tu as bâtie, tu as précisément pris de certaines pièces et on dirait qu'on apprécie beaucoup ce qu'on a créé, puis là, clac, c'est fini, la dernière carte est tirée, puis la partie a fini. Donc, je trouve que on dirait que je veux avoir juste une ou deux pièces de plus, comme je suis maintenant rendu que ça ressemble à des plans d'un château, parce que c'est juste des tuiles, donc tu vois d'en haut, là, je sais pas c'est quoi, Ariel, ou comme un plan, un point de vue, nous autres on dit de l'œil de oiseau, là, en anglais, là, bird's eye view. Qu'est-ce que vous direz?
À vue d'oiseau? Je sais pas.
Un vue d'oiseau. Donc voilà, on a juste un vue d'oiseau. Donc on dirait que c'est un vrai plan.
Une vue aérienne.
Donc, oh, je sais pas. Ouais, une vue aérienne. Puis on dit, oh, voilà le salon. Et ça, c'est le cours en arrière. Et ça, c'est le jardin. Puis on voit le château qu'on a bâti. Puis clac, c'est fini. C'est le moment de remettre des tuiles. Donc je trouve ça un peu trop court. C'est un bon jeu, pareil, mais un peu trop court pour cette raison-là. Mon numéro 3, les châteaux du fou roi fou Ludwig. Castles of Mad King Ludwig.
Ouais, peut-être aussi une vue d'ensemble. J'imagine une vue d'ensemble, ça pourrait fonctionner aussi pour...
Vue d'ensemble.
Ouais, mais une vue aérienne, je dirais, c'est ça. J'ai jamais joué à Castles of Mad King Ludwig. McPhew, j'ai jamais prononcé ça non plus. Castles of Mad King Ludwig. c'est un peu étrange parce qu'il y a un autre jeu qui s'appelle Between Two Castles of Mad King Ludwig, qui est une sorte de réimplémentation de Between Two Cities que j'ai. Qui est quand même un bon jeu, mais...
Que j'ai.
Ouais, c'est un bon jeu, mais il faut jouer à plusieurs. Donc, c'est pas très bon. C'est un peu comme Seven Wonders. Ça prend un compte minimum pour que ça commence à être intéressant. Là. Peut-être à partir de...
Mm-hmm. Mm-hmm.
Seven Wonders, c'est pas si mal à partir de 3, mais c'est vraiment de 4 à 7 que c'est bon. Et c'est un peu la même chose avec Between Two Cities. Donc, ça prend un certain nombre de joueurs. Mon numéro 3, c'est un jeu dont j'ai parlé souvent. Qui s'appelle Agricola, qui est possiblement mon jeu préféré. Et Agricola, ben, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Si vous connaissez Agricola, vous savez de quoi je parle. Mais si vous ne connaissez pas Agricola, tout simplement, au début de la partie, vous avez un certain nombre d'actions disponibles. Vous avez seulement 2 ouvriers disponibles. Puis à mesure que le jeu avance, vous avez besoin de produire des membres de la famille. Donc, vos personnages font l'amour.
Nice.
Ensuite, vos bêtes, vous allez acheter des animaux. Vos animaux vont faire l'amour à leur tour pour se multiplier.
Nice.
Ensuite, vous allez construire des clôtures, vous allez faire pousser des légumes, vous allez labourer des champs. Vous allez construire une partie de votre ferme et tout ça.
Nice.
Et contrairement à plusieurs jeux de ce genre-là, on peut pas vraiment se spécialiser dans une chose. On doit faire un peu de tout, sinon on est puni très, très fortement. Et on doit nourrir nos ouvriers, notre famille, à mesure que le jeu avance. Quand on arrive proche de la fin, il y a 14 nouvelles possibilités d'action qui sont dévoilées à chaque tour. Et puis, quand on arrive tout près de la fin, moi, c'est là que je trouve que le jeu... Parce que c'est quand même un long jeu. C'est bizarre de dire qu'un jeu est trop court quand il dure 2 heures, quand tu joues à 3. Là. Mais c'est quand tu arrives proche de la
fin... Ce long jeu est trop court.
Ouais, c'est un peu ça, mais ça dit 30 minutes par personne, mais c'est vraiment 30 minutes par personne quand c'est des personnes qui jouent rapidement. Tu sais, comme moi, par exemple, ça me prend 30 minutes par personne si... Je joue avec Sacha, par exemple, ça serait 30 minutes par personne, mais la majorité du monde avec qui je joue, c'est un jeu qui prend plus que ça. Mais quand on arrive proche de la fin, on se dit « Ah non, mais si je réussis pas à faire ça, je vais perdre des points. Si je réussis pas à faire ça, je vais perdre des points et tout ça. » Puis on essaie de trouver plein de façons de réussir à faire tout ce qu'il faut faire pour pas perdre des points. Et y a plein de monde vers la fin qui se dit « Ah, ça aurait pris 2 ou 3 rondes de plus. » Donc, Agricola, mon numéro 3. Le pire, c'est que j'adore ce stress-là relié au jeu, mais c'est vraiment, il y a vraiment ce sentiment-là que le jeu est un peu trop court quand on arrive proche de la fin.
J'allais mettre ce jeu-là parce que je suis d'accord que comme une fois arrivé à la fin, on sait pas quoi faire parce qu'il y a trop d'options, puis il faut un peu juste prendre une décision, mais je savais que tu allais le mentionner, donc j'ai sauvé une place dans ma liste parce que c'est un bon choix, je trouve.
Ah, beaucoup de choix.
Mon numéro 2, c'est un autre jeu de placement de tuiles qui est joué simultanément, que je trouve intéressant. J'aime les jeux qui utilisent ce genre de technique ou c'est pas vraiment mécanique, mais un peu. Ça s'appelle Karuba. Karuba. Taluva Karuba. Karuba est un jeu où tout le monde part avec les mêmes tuiles. On les dévoile une à la fois, puis on doit placer les tuiles quelque part sur notre plateau. Mais on peut décider de prendre de différentes directions, différents chemins pour arriver au même endroit, dans le fond. Et le but, c'est d'avoir le plus de points, puis il y a différentes manières de faire ça. Mais pour moi, la raison que je trouve ça trop court, parce que ça se peut qu'il y en ait qui disent ça, c'est bizarre, parce que tout le monde a la même quantité de tuiles, on joue des tuiles, c'est fini quand c'est fini. Mais ça, c'est une condition pour terminer la partie. C'est quand la dernière tuile est dévoilée puis tout le monde place. L'autre condition qui peut être rencontrée ou rejointe, c'est quand quelqu'un arrive à déposer tous les bonhommes au temple. Puis là, c'est fini pour tout le monde. C'est-à-dire... quelqu'un, peu importe les points qu'ils ont eu, parce que c'est pas donné que cette personne a gagné la partie, mais quelqu'un a trouvé une manière efficace de placer les tuiles pour rendre les bonhommes au temple. Mais parfois, il y a 4, 5, 6 tuiles même qui restent, peut-être même plus que ça parfois. Et tu as des plans, puis tu vois, OK, j'ai besoin d'une telle tuile ici, puis une telle tuile là, puis ça va être parfait, puis j'aurai telle quantité de points. Et c'est dans ta tête, tu as planifié, puis on attend juste la bonne tuile. Puis là, quelqu'un dit, oui, j'ai fini. Tous mes bonhommes sont au temple, puis j'ai l'impression de comme, ah, si seulement j'avais juste besoin d'une autre tuile de plus. Donc, ça me donne souvent cette impression, parce que je pense pas souvent que j'ai fini ce jeu-là avec la condition de toutes les tuiles ont été dévoilées. Ça arrive pas souvent, ça. Je dirais que d'habitude, il y a quelqu'un qui finit en premier. Donc, c'est pour ça que j'ai ce sentiment-là. Mais j'adore le jeu. C'est un de mes jeux placement de tuiles préférés. D'ailleurs, Luc, c'est une autre liste qu'il faut qu'on fasse. Une liste de placement de tuiles. Karuba, mon numéro 2.
J'ai pas du tout ce sentiment-là en jouant ce jeu-là. Moi, d'ailleurs, c'est le genre de jeu que même si tu réussis pas à placer ou à apporter tous tes bonhommes ou tes explorateurs jusqu'aux pyramides, tu peux quand même gagner. Si tu as réussi à amener par exemple 3 explorateurs aux pyramides, puis t'es arrivé le premier dans ces 3 pyramides là, t'as plus de points que n'importe qui d'autre. Puis en plus, si tu réussis à récupérer des pépites ou des diamants, ben c'est ça.
Une chose. Des pépites de chocolat. Non, mais comme c'est parce que tu planifies, t'es là, puis t'es comme besoin de tel, puis là quelqu'un comme clac, c'est fini. C'est, je sais que ça se peut que je gagne, puis j'aime ça un peu. C'est comme, oh, peut-être que j'ai gagné pareil, mais c'est comme, ah, mais j'avais des plans, je voulais finir mes plans, tu sais.
Une chose que j'adore de ce jeu là, c'est quand quelqu'un fait une route puis finit par se bloquer comme fait une route qui mène nulle part puis fait ah là, il s'est juste bloqué.
C'est quoi le son?
Ça me fait rire bon à chaque fois quand quelqu'un finit par se trouver un peu stupide. Ah ouais, ça a été stupide, je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Ouais, c'est le fun, tout le monde fait cette erreur de temps en temps.
Ça me fait super rire. Oui, ton numéro 3. C'était ton numéro 2, pardon.
C'est 2. C'est
mon ouais. Numéro 2, c'est Gizmos. On en a parlé dans le passé ici, à ce podcast. Gizmos, c'est un jeu...
C'est sur ma liste à honte. J'ai pas joué encore. Ouais. Puis je sais que Jonathan nous écoute. Oh, shit. Je sais qu'un de nos auditeurs nous écoute. Puis il aime pas ça que j'ai pas joué. Mais je vais essayer. Je promets.
Mais je pense que ça te dérange pas qu'on dise son prénom parce que c'est son prénom est dans le nom de son profil Instagram. Où il parle de jeu. Donc, je pense que c'est correct. Je pense que ça va.
Tant mieux, donc.
Exactement.
C'est tout ce que je dis.
Tant mieux, donc. Mais oui, tant mieux.
La reine est morte. Alors, tant mieux.
Oh là là.
Radio-Canada Montréal, tant mieux.
Ça va être...
Ah, je pourrais voir les Québécois qui disent ça. Là. Vous avez moins d'obsessions que nous avec...
Ouais. Combien de temps tu penses avant qu'on voit le prince Charles, mais maintenant le roi Charles sur l'argent, sur nos billets?
I can't wait. Puis tu sais ce qu'ils font...
C'est bizarre. Toute ma vie, ça a été la reine.
Ouais. Ça flippe de direction. La reine check la gauche. Lui, il va checker la droite.
Pas vrai?
Ouais, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils font ça. Puis ça va être un homme qui est sur le... Toute ma vie, j'ai jamais, ben, sauf les vieilles pièces, là, j'ai jamais vu une pièce d'argent avec un homme sur l'endo.
Ouais.
Ben, Time's up.
Ben, en même temps, sur les billets, on a vu un homme, là. On a vu, genre, Wilfrid Laurier.
Ah, c'est vrai. Ben, je parlais des pièces de monnaie, là. Ouais. Ben, oui, t'as raison.
Ouais, c'est ça.
Wilfrid.
Donc, Gizmos, en parlant de la reine, Gizmos, c'est un jeu.
Ben, niche. Puis en anglais, t'as dit quelque chose comme « Mon gizmo est quand même fort » ou quelque chose comme ça. Puis j'étais comme « Hey, j'ai une chance qu'on ne parle pas en français en ce moment. »
Oui, donc Gizmos, qui est un jeu, c'est un engine builder. Donc, on se bâtit une sorte de machine avec des gizmos, ça veut dire bidule en français. Là. Donc, on met des bidules, on se bâtit une machine avec des bidules qu'on ajoute un après l'autre. Et chaque carte qu'on ajoute à notre machine, c'est un bidule. Et ça fait des réactions en chaîne. Donc, c'est vraiment ça qui est l'intérêt du jeu. Et je crois que c'est lorsqu'on atteint 16 cartes ou 16 bidules que le jeu arrête. Et chaque fois que je finis ce jeu-là, je me dis, ah, j'aurais pris quelques tours de plus parce que justement, c'est là que ça devient vraiment cool. Parce que ta machine, justement, quand tu prends, tu sais, ça dit, si tu prends telle bille, mais t'es obligé de prendre une bille de telle place. Puis là, si t'as pris une bille de telle place, mais t'as le droit de construire une carte. Puis quand tu construis une carte, il peut se passer si, ça. Et c'est là que ça, quand t'as des réactions en chaîne incroyables à la fin du jeu, il y a vraiment un sentiment de satisfaction incroyable. Cela dit, je pense que c'est un jeu où, qu'on pourrait ajuster avec des règles maison assez facilement. Les règles disent que c'est 16 cartes, je crois, mais vraiment, si on voulait rendre le jeu plus long, on pourrait dire hey, on arrête à 24 ou on arrête à 10 si on veut que ce soit plus court. Je pense que ça se fait assez facilement et j'ai pas l'impression que ça nuirait au jeu. Mais quand même, si vous suivez les règles de base, Gizmo, c'est un jeu qui donne un sentiment qu'il est trop court. Alors, mon numéro 2, Gizmos.
J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça a l'air très cool, puis, simple.
Tu l'as depuis plus d'un an, n'est-ce pas?
Ta gueule. Shut up.
Moi, ces temps-ci, c'est ça que je fais. Je suis en train de jouer à des jeux que j'ai depuis longtemps. Puis j'ai vendu 7 jeux récemment. Donc,
je m'en suis débarrassé de beaucoup quand j'ai changé l'étagère.
Ouais.
C'est beaucoup plus gérable maintenant. Je ne le vois pas, puis je suis comme overwhelmed. Je suis comme, OK, je peux y arriver.
Ouais.
Puis j'essaie de ne pas acheter de jeu jusqu'à ce que je joue à tous ceux que j'ai.
Ouais, c'est une bonne idée.
Mon numéro 1 est un jeu que je n'aime pas, mais je veux aimer. C'est un jeu dont j'ai parlé à plusieurs reprises par rapport à ce même problème de ne pas l'aimer, mais de vouloir l'aimer. Et ce jeu-là s'appelle, c'est quoi en français? Est-ce que c'est Betrayal ou comme...
Oh non, je pense que
mal
c'est...
Mal prononcé en français. Là,
Betrayal, je sais pas.
Betrayal, at House on the Hill. Betrayal at House on the Hill. J'aime tellement l'idée. Un jeu semi-coopératif ou parfois coopératif, on explore une maison hantée, on essaie de trouver des outils ou des ressources, des choses, puis éventuellement, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un monstre, il y a un fantôme, il y a la maison qui nous attaque. Je trouve l'idée tellement cool, comme des B-movies, des films moins bons de horreur. Ça m'intéresse, c'est comme ça devrait être mon jeu préféré. The Amazing Bulk. Ça devrait être mon jeu préféré du temps d'Halloween. Mais ce n'est pas le cas. Mais je le vends, puis je l'achète, puis je le vends, puis je l'achète. Ça fait maintenant 3 fois que je l'ai, je pense. Et une des choses que je trouve est problématique, pas la raison, parce qu'il y a définitivement autre problème, mais une des choses, c'est que la première partie où on explore la maison, c'est parfois trop court. Parce que pour commencer le haunt, je sais pas ce serait quoi en français, le haunt. Haunt, mais c'est pas la honte. C'est
la hantise.
La hantise. J'ai aucune idée. Mais la deuxième partie, c'est quand le monstre se dévoile, quand le monstre se présente. Puis la première partie, on explore la maison, on fait la mise en scène, on voit les différentes pièces, on voit où se trouvent les armes et les outils, les ressources, les cartes et tout ça. Mais lorsqu'il faut qu'on fasse un haunt roll, quand on doit lancer les dés pour voir si la deuxième partie commence ou non, il faut lancer 6 dés, puis on peut avoir les faces vides, puis il faut avoir moins de points que de cartes d'un certain type. Puis ça se peut qu'on ait 3 cartes de ce type-là, puis on lance 2. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et je trouve que ça rend cette partie moins longue que ça devrait être. C'est-à-dire que la maison est moins explorée, il y a moins de place où courir, il y a moins de choses intéressantes à utiliser, comme des passages secrets ou comme un ascenseur secret ou comme, tu sais, des différents niveaux parce que tu peux explorer le sous-sol ou le grenier, là.
Oui.
Puis, je trouve juste que ça peut parfois nuire à l'expérience. Même si c'est pas la seule chose et probablement pas la chose la plus forte qui nuit à l'expérience, je trouve quand même que quand je pense à un jeu qui est trop court, cette partie-là vient en tête. Je dis, c'est trop court. On a à peine exploré la maison, puis là, tu dis qu'il y a un loup-garou qu'il faut tuer, puis j'ai pas d'armes, j'ai rien. Donc, c'est intéressant. Je pense que thématiquement, ça, je trippe sur l'idée. C'est comme, je dis ça tout le temps, c'est comme un... J'ai comme Stockholm Syndrome. C'est comme un chum qui me bat, mais je l'aime. Mais je sais pas comment quitter. Je l'aime. Mon numéro un, Betrayal at House on the Hill.
Ouais, quitte-le. Quitte-le. Fais yeah. juste regarde-le, puis vois ce qu'il est, puis calisse-le là.
Mais moi, je dis ça par rapport à toi depuis des années, puis je suis incapable.
Oui, je sais, mais c'est exactement ça. Tu vois, là, je te comprends. Il y a oui. un petit goût de revenez-y. Mais...
Il y a un goût de quelque chose,
oui,
c'est clair.
Oui, c'est ça, exactement. Alors que, yeah, Betrayal at the House on the Hill, c'est vraiment pas un jeu amusant. J'ai joué à ça deux fois, puis j'ai pas aimé mon expérience les deux fois. Je n'aime vraiment pas ce jeu-là. Je sais pas si c'est le monde avec qui j'ai joué, mais j'ai pas aimé mon expérience. Évidemment, je fais partie du monde avec qui j'ai joué, donc je fais partie du problème si problème il y a.
J'espère.
Exactement. Mon numéro un, c'est probablement, je dirais que c'est presque assurément le jeu auquel j'ai le plus joué physiquement. C'est-à-dire que on parle pas de BGA et ces choses-là. Là. C'est le jeu Marvel Legendary.
T'es-tu correct?
Ouais, j'ai reçu un message de Pyro.
Ça semblait.
C'est juste que j'ai reçu un message facile. De Pyro en même temps qu'on parlait, puis Pyro est au Randolph tout de suite.
À Montréal?
Ouais, exactement.
Ben, salut Pyro.
Ouais, il est là. Puis il vient juste de m'envoyer un message pour me dire qu'il est là, puis que.
Il est là, le Pyro, il est là.
Puis qu'il y avait la chanson Loveful de The Cardigans qui est en train de jouer, puis j'aime cette chanson-là.
Il est là.
Il est là, le bonheur, il est là. Oh, je sais pas si on a le droit de faire ça, des chansons. Oh, peu importe. Bon, mon numéro 1,
wow,
c'est Marvel.
Ce gars-là va nous poursuivre. Il peut s'en aller direct à l'enfer, là. C'est tellement une chanson copiée de Gangster Paradise, ça n'a aucun fucking Christ de sens. Non, mais avoue, là. Peut-être la mélodie est un peu différente, mais voyons, tu peux jouer Gangster Paradise en arrière-plan pendant qu'il chante sa chanson. C'est les mêmes accords. C'est correct. Ouais, je me la ferme.
C'est la vie. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, moi, c'est Marvel Legendary, mon numéro un. Marvel Legendary, c'est un deck builder. Donc, si vous ne connaissez pas le principe des deck builders, si vous écoutez notre podcast, il y a des bonnes chances que vous sachiez c'est quoi un deck builder. Mais un deck builder, c'est un jeu dans lequel on a des cartes au début. Et les cartes sont souvent mauvaises au début. Et on essaie d'améliorer notre main à mesure que le jeu progresse. Donc, en se débarrassant des mauvaises cartes qu'on a et en se procurant de nouvelles cartes qui sont plus puissantes, et on espère avoir des combos intéressants. Marvel Legendary, c'est mon deck builder préféré. Je sais qu'il y en a qui disent que Clank est meilleur et tout. Moi, j'ai joué à Clank. J'adore Clank Legacy. Je pense que c'est un excellent jeu, mais encore Marvel Legendary. Il y a la satisfaction de jouer avec des super-héros que je connais. J'ai tout le temps aimé Marvel, même quand j'étais petit. Et puis, j'aime comment les pouvoirs sont un peu thématiques selon les cartes et tout ça. Donc, j'aime vraiment ce jeu-là. Mais il y a toujours une carte qui vaut vraiment plus cher, qui est disponible, mais qu'on peut pas se procurer au début parce qu'on commence avec juste une certaine quantité d'argent. Puis, c'est impossible de se procurer ça dans les premiers tours. Et puis, ça arrive très souvent... qu'on réussisse même pas à se procurer ces cartes-là avant la fin du jeu. Mais quand on réussit à se la procurer, la plupart du temps, il reste un ou deux tours au jeu. Et puis là, on a joué cette carte-là une fois ou deux fois. Souvent juste une fois, mais parfois même pas une fois. Et puis, le jeu finit. Et presque tout le temps, quand ça arrive, peu importe avec qui je joue, les gens se disent « Ah, ça fait chier, juste quand on commençait à voir exactement ce qu'on aimait comme carte, le jeu finit. » C'est vraiment ça le sentiment que j'ai, même si j'adore ce jeu-là. C'est un sentiment chaque fois qu'on y joue, qu'on a l'impression qu'il manque quelques tours, puis qu'on aimerait pouvoir jouer nos bonnes cartes. On aimerait prendre nos cartes, puis les garder pour une prochaine partie, juste pour continuer à se battre contre des ennemis peut-être plus forts, mais on pourrait faire ça. Il devrait faire un Marvel Legendary Legacy. Donc, il pourrait juste sortir une sorte de upgrade pack pour faire un Legacy, mais tu prends tes cartes normales, puis tu fais juste... Il y a des fan-made, des versions fan-made là, sur le web. J'ai déjà fait une sorte de campagne de Legacy comme ça, puis c'est intéressant, mais ça serait cool s'il faisait juste dire, OK, vous avez les cartes, Maintenant, voilà les éléments que ça vous prend pour faire une histoire avec ça, puis vous pouvez prendre les personnages que vous voulez pour y arriver. En passant, ça n'a rien à voir avec le fait que le jeu est trop court, mais Marvel Legendary a une règle que j'ai tout le temps trouvé un peu étrange, c'est qu'une fois qu'on a battu le monstre à la fin, ou le gros vilain, on va juste compter les points de nos cartes pour déterminer qui est le plus légendaire de tout le groupe. Puis je trouve que ça, c'est une règle totalement inutile qui ajoute absolument rien au jeu. Parce que je trouve que justement, la beauté du jeu, c'est qu'on peut dire, regarde, moi, je vais m'occuper de ces vilains-là dans la ville qui valent zéro point, mais juste pour qu'on puisse survivre. Puis toi, va aller battre le gros parce que t'as comme telle carte. Puis on peut dire, regarde, Jake, achète cette carte-là, ça va bien avec tes cartes. Puis ça va te permettre de battre le gros vilain pendant que moi, je vais m'occuper de la... Tu sais, je sais pas, il y a vraiment... Moi, tellement que je compte plus jamais les points une fois qu'on a fini. Il y a cette composante-là comme de jeu coopératif, mais il y en a un qui gagne plus que les autres. Je trouve ça un peu étrange.
Yeah, c'est pas le fun, ça. Mais c'est quand même un bon jeu. J'y ai joué, puis je l'aime. Puis je pense que c'est un bon choix. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu... choisissent à un moment donné, OK, je vais pas attaquer telle chose parce que, ou acheter telle carte parce qu'il n'y a pas de chance que je vais le voir. Tu sais, comme tu as peut-être focusé ton énergie quelque part d'autre.
Ouais.
Mais bon. OK, c'est nos listes. Merci beaucoup de nous écouter. Luc, as-tu une mention spéciale vite fait que tu veux faire?
Absolument, mon beau petit mec. J'ai le jeu. Je voulais parler du jeu Zombie 15 minutes. Ce jeu-là, en fait, est à la fois dans mes jeux trop longs et trop courts. C'est trop court parce que ça prend à peu près 20-25 minutes mettre le jeu en place, puis ça dure 15 minutes exactement. Et c'est trop long parce que ça prend 40 minutes pour jouer un jeu de 15 minutes. Donc, ça va se retrouver sur la prochaine liste aussi quand on va parler des jeux trop longs. Zombie 15, qui est une mention spéciale.
Oui, moi aussi, j'avais ça là pour la même raison. Aussi, d'autres jeux de minuté, là, comme Escape, Fuse. Fuse qui s'appelle quoi en français, d'ailleurs?
Ah, j'oublie à chaque fois. Pas Même Pas Peur.
Même Pas Peur.
Même Pas Peur, c'est un autre jeu.
Là, j'ai acheté aussi Tapestry, parce que c'est comme... Tu as l'impression que tu peux faire beaucoup plus, puis là, clac, c'est le dernier tour. Agricola, même raison que Luc. Small World, toujours il y a un moment que je suis comme, est-ce que j'ai assez de temps? Parce que les ronds sont fixes. Est-ce que j'ai assez de temps d'avoir un nouveau peuple? Puis je prends toujours le mauvais timing pour ça.
C'est Mission Power pas possible Grid, pour Fuse.
Mission pas possible. Power Grid, je viens d'avoir mon engin qui fonctionne, puis clac, c'est fini. Et Werewolf, pour la même raison que tu as mentionné King of Tokyo, on est éliminé, puis c'est plate. C'était pas très long. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer un courriel, vous pouvez nous appeler, vous pouvez envoyer un pigeon. Et on aimerait entendre vos pensées de nos listes. Est-ce qu'on a manqué un jeu qui est bien trop court selon vous? Mais merci beaucoup d'être là, de nous écouter. On vous apprécie énormément. Surtout, surtout pas Moussa. Mais sinon, le reste, on vous aime. et jusqu'à la prochaine fois.
Oh, attends. Je voulais juste dire que j'ai backé deux Kickstarter avant de finir. Legacy of You et The Fox Experiment. Legacy of You qui est un jeu seulement solo, puis The Fox Experiment qui est le nouveau jeu d'Elizabeth Hargrave qui a fait Wingspan. Alors, jusqu'à la prochaine fois, c'était Luc.
Et c'était Jake.
Et vous avez écouté un podcast de parfois de jeux de société et souvent d'autres choses.
Ménage à deux.
La reine est décédée.
Vive le roi.